Suivez Priorité Santé avec Sunou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sunou Banque avec vous à chaque étape.
Priorité Santé, Caroline Paré.
La lèpre est conçue comme une maladie honteuse. Ici, à Madagascar, beaucoup de personnes encore pensent que c'est de la sorcellerie. Quelquefois, il faut annoncer aux gens le nom de la maladie. Et j'ai assisté à ces larmes quoi, des hommes qui en pleurent en disant « Moi, je suis lépreux, c'est fini pour moi. » Mais aussi, aux yeux de la société, c'est... La lèpre est vilaine, quoi. Il a les plaies, il a l'odeur, il a les infirmités qui sont les résultats des problèmes des nerfs. Et c'est parce qu'on cache la lèpre que le dépistage est tardif et ça amène toutes les conséquences, même des handicaps, et ça fait souffrir les lépreux, quoi.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, Priorité Santé vous propose de nous rendre à Madagascar. La Grande Île est l'un des 10 pays les plus touchés par la lèpre à l'échelle planétaire. Chaque année, plus de 1500 nouveaux cas y sont dépistés. Des chiffres sous-estimés selon les médecins spécialistes dans le pays, tant la maladie est négligée, taboue, et les patients difficiles à atteindre. Maladie chronique infectieuse, la lèpre se transmet lors de contacts étroits, fréquents, par les gouttelettes du nez et de la bouche, porte d'entrée et de sortie du bacille de Hansen. Elle se manifeste par une progression graduelle des symptômes cutanés d'abord, puis une altération des nerfs périphériques. Malgré un traitement efficace, la lèpre entraîne, lorsqu'elle n'est pas traitée à temps, des déficiences permanentes du visage, des yeux, des mains, des pieds. Au-delà des souffrances physiques, les malades sont également victimes d'exclusion sociale. Ils sont craints ou rejetés par leur propre communauté. Pour comprendre les freins à un dépistage efficace, la prise en charge actuelle à Madagascar et les enjeux pour éradiquer la lèpre dans ce pays de l'océan Indien, notre reporter Raphaël Constant est allé à Fianarantsoa. C'est à 400 km au sud de la capitale. Raphaël Constant, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Alors on va vous suivre, hein, Raphaël, dans le centre de soins de Marane.
Un dispensaire installé au-dessus de la ville de Fianarantsoa, qui est tenu par des religieuses de Saint-Joseph de Cluny. Alors historiquement, c'est une ancienne léproserie et aujourd'hui, Sœur Sabine, que l'on a entendue en introduction, est la responsable avec une équipe de 7 sœurs aides-soignantes. C'est un centre de référence car il a vraiment la particularité d'accueillir gratuitement des malades à des stades de complications élevés qui nécessitent des prises en charge spécifiques. En 2023, une trentaine de nouveaux malades ont été soignés et une vingtaine d'autres malades pour des complications. J'ai donc fait le voyage avec le docteur Cauchois, conseiller médical de la Fondation Raoul Folro à Madagascar, et le docteur Andrine, chargé du programme lèpre au sein de la Fondation et ancien chef du programme national de lutte contre la lèpre du ministère de la Santé publique. Tous deux, ils font régulièrement des formations et des supervisions dans les centres que le programme et la Fondation appuient.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour docteur. Bonjour docteur Andy.
Comment ça va?
Merci, soyez les bienvenus.
Sœur Sabine, on vient d'arriver dans le centre de Marane. Et pour arriver chez vous, il faut traverser une forêt sur une piste. Et vous êtes nichée là vraiment dans un écrin de verdure dans la forêt.
Nous sommes un peu éloignés de la ville, ça c'est une histoire à raconter. Bien que la lèpre, ça fait fuir, quoi. Il faut les mettre à l'écart, et c'était déjà depuis le début. Et c'est pour ça qu'on a trouvé cette colline, c'est pas nous, ça fait 100 ans que le centre est là. On est dans le jardin, il y a la ferme d'abord.
On entend les débuts derrière
nous. Voilà. Le père fondateur pensait qu'il leur faut un cadre à ces malades-là pour leur aider à oublier leur souffrance, pour la sérénité aussi, je dirais. Hein.
Et votre équipe, donc, qui nous attend, qui nous accueille?
Bon. Deux infirmières, donc, Sœur Solange, la deuxième.
Bonjour.
Bonjour.
On est là vraiment au service du villageois et des malades de la lèpre.
Si ça ne vous ennuie pas, on va peut-être commencer par ces nouveaux malades, après avoir jeté un petit coup d'œil sur le registre, voir quels malades on sélectionne à voir.
Oui.
On peut entrer ?
Entrer ?
Alors, on rentre dans le dispensaire, dans une première salle. Il y a des armoires en bois un peu partout, une grande table. C'est ici que vous recevez les malades ?
Oui, nous avons dépisté il y a une semaine quelqu'un qui vient au dispensaire et qu'on découvre une lèpre.
On va l'examiner, on va lui demander de se dévêtir.
Ah, je termine.
Salam, monsieur.
Salam.
Ce qu'on recherche, ce sont des taches insensibles. Parce que la lèpre, c'est une maladie qui touche la peau, mais ça, comme on dit traditionnellement, ça mord le nerf. Et du coup, il y a des pertes de sensibilité. C'est ça qui fait le diagnostic de la lèpre. Ce sont des taches insensibles.
On voit quelques taches donc, sur le corps du malade qui sont un peu plus claires, mais elles peuvent être assez petites. Là, on en voit une très grande sur l'avant-bras du patient, dans le dos aussi. Des taches qui sont éparses.
C'est la première alerte parce que malheureusement, notamment en milieu rural, où on a beaucoup d'agriculteurs qui sont exposés à la transpiration toute la journée, les dermatoses sont très 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 fréquentes. Quand on fait les tournées, la grande force, c'est de dépister les malades à un stade où eux-mêmes ne seraient jamais venus consulter.
On va regarder tout ça avec vous, ma soeur.
Si, Jean de Dieu.
Jean de Dieu, soulevez aussi votre pantalon pour voir s'il y a des taches. Vous voyez là, est-ce que vous avez remarqué ces taches depuis longtemps ? Est-ce que vous les avez soignées ?
Non, jamais. Quand j'étais petit, j'avais des taches aussi, mais elles sont parties quand j'avais environ 10 ans. Depuis, tout allait bien.
Est-ce que vous avez pris des médicaments à cette époque ?
Non, je n'ai jamais pris de médicaments. On me laissait juste comme ça.
Et vos mains, elles sont recroquevillées depuis combien de temps ?
Ça fait environ 3 ans.
3 ans ?
Oui.
Et elles se sont courbées toutes les deux au même moment ?
Oui, toutes les deux en même temps.
Bon, avant d'établir le diagnostic de votre maladie, on doit vous faire un examen si vous êtes d'accord.
D'accord.
Vous pouvez me résumer un petit peu, ma sœur, j'ai compris une partie. Donc ce monsieur, il arrive ce matin ?
Tout seul comme ça pour soigner des gerçures au pied.
D'accord. Et là, j'ai vu, donc, quand vous l'examinez, il a quelques taches dépigmentées sur la peau, une griffe, c'est-à-dire qu'il a des 5 doigts de la main qui sont légèrement fermés. On a la tabatière anatomique, cette fosse qu'on a entre le pouce et le deuxième doigt. Et là, ça veut dire qu'il a une déficience musculaire, ce qui fait que son nerf ne travaille pas, les muscles ne travaillent pas, et il a une déficience musculaire. Ça, c'est vraiment des signes très évocateurs. Donc, allez-y, faites l'examen, comme vous avez fait pour le dépistage, et nous, on va voir. Elle va lui effleurer la peau avec un coton, et on lui demande s'il ressent le toucher du coton, c'est l'effleurement du coton. Donc, on va laisser Sœur Sabine faire cet examen. Donc, on demande au malade de tourner la tête pour ne pas voir.
Je sens.
Et là, vous ne réagissez plus.
En bas, oui, je ressens.
S'il se trompe. Hein.
On a remarqué qu'il mettait beaucoup plus de temps à répondre qu'il sentait. Donc il y a peut-être quand même une hyposensibilité sur certaines tâches. Alors après, ici, ma sœur, vous êtes reconnue comme un centre de lèpre sur toute la région. Vous drainez, on va dire, un cercle d'au moins 300 km autour de vous. À quoi il pense quand il est venu ici ? Il est venu ici pourquoi ?
Je sais que vous, les sœurs, vous vous occupez des villageois. Alors je suis venu ici car j'avais des doutes sur mon état de santé. Et c'est ce que vous avez confirmé.
Est-ce que vous avez pensé à la lèpre ?
Non, je n'ai jamais imaginé que ça pouvait être la lèpre. Je n'ai pas du tout pensé à ça.
La deuxième partie de l'examen, ça va être l'examen des nerfs. Toute la gravité de la lèpre, c'est l'atteinte des nerfs et ce sont essentiellement les nerfs périphériques des membres supérieurs et inférieurs. Donc là, je palpe immédiatement un gros nerf au niveau du coude entre les deux extrémités osseuses. On a une gouttière dans laquelle passe le nerf. Donc le malade, la palpation, je sens un nerf qui a la grosseur, on va dire, d'un stylo bic dans son entier. Si je palpe un nerf normal, c'est plutôt 1,5 mm de diamètre, alors que là, il fait 8 ou 9 mm de diamètre. J'appuie pas fort. Donc on va demander à Sœur Sabine d'examiner la sensibilité. Donc là, qu'est-ce qu'elle va faire avec un stylo ? Elle va effleurer le bout de ses doigts. Et même chose que pour les taches, en ayant les yeux fermés, il sent quand elle pose le doigt sous les extrémités. Donc on laisse Sœur Sabine continuer son examen.
Je sens. Je sens. Je sens.
Donc on a une particularité d'un malade qui a des troubles moteurs et pas de troubles sensitifs. En général, c'est un peu l'inverse. Néanmoins, aujourd'hui, je suis avec mon collègue Dr Ndrine, mais nous, on n'a pas de doute. On affirme le diagnostic qu'avait déjà posé Sœur Sabine.
Et cette atteinte des nerfs dans les mains, elle peut aller jusqu'où?
Au niveau des mains, elle peut aller jusqu'à une paralysie totale. On peut trouver même une main qu'on dit une main tombante. C'est dû à l'atteinte des trois nerfs, le nerf radial, le nerf cubital et le nerf médian. Si on est devant un cas de lèpre au stade de dermatose, c'est sûr que si on arrive à diagnostiquer tôt et traiter tôt, il n'aura pas risque d'invalidité.
Docteur Ndrine, est-ce que vous pouvez nous poser le contexte de la lèpre à Madagascar?
En 2016, Madagascar a essayé de mettre en œuvre une nouvelle stratégie de dépistage qu'on appelle la stratégie avancée de dépistage de cas de la lèpre à travers ce qu'on appelle une consultation de masse en dermatologie dans le but de prévenir la survenue des invalidités chez le nouveau cas de lèpre dépisté. On constate qu'il y a une proportion élevée de la forme multibacillaire, c'est-à-dire MB, qui est aux environs de 85-90%. Ces formes multibacillaires sont les formes contagieuses. On a encore jusqu'à maintenant 35 districts sanitaires qui sont encore très endémiques de la lèpre à Madagascar.
Comment vous expliquez aujourd'hui que la lèpre persiste encore à Madagascar?
Il y avait vraiment une négligence de cette maladie vis-à-vis de l'État malgache qui, jusqu'à là, n'apporte aucun appui financier sur la lutte contre la lèpre au pays. Mais malgré l'existence du financement des partenaires, en particulier la Fondation Raoul Folero, ce financement ne permet pas au Programme national de lutte contre la lèpre de réaliser toutes les activités qui devaient être faites.
Et sur le terrain, Dr Ndrine, comment on explique que la lèpre circule encore?
Premièrement, on peut dire que la population malgache, surtout la population brousse, ne sont pas encore vraiment convaincus de cette maladie. Donc, face à des tâches qui ne sont pas douloureuses, la population pense que ce n'est pas une urgence d'aller se consulter dans un centre. La priorité, c'est acheter de quoi manger. Ce retard va favoriser également la transmission. Mais la pauvreté aussi cause la promiscuité, qui est un des facteurs qui favorise la transmission de la lèpre. En brousse, une famille malgache peut vivre à 5 à 6 dans une petite maison.
Donc il y a une vraie méconnaissance de la maladie. Vous parlez d'aspect culturel, c'est-à-dire que c'est encore une maladie de la honte?
Oui, un malade qui suspecte d'être atteint de la lèpre va s'éloigner de la communauté et va se cacher ailleurs. Et deuxièmement également, une famille qui connaît qu'un de leurs membres est atteint de la lèpre va demander à ce malade de quitter la famille ou de le mettre ailleurs.
Au rang des principaux freins à la prise en charge des personnes atteintes de lèpre, on trouve les fausses croyances et le problème d'accessibilité financière. Mais Raphaël Constant, le manque d'informations constitue également un obstacle majeur au dépistage de cette maladie.
Oui, et d'après les spécialistes que j'ai interrogés, outre un contexte social et économique délétère, il y a un réel manque de formation aux premiers signes de la lèpre des infirmiers et des agents de santé. C'est vraiment, Caroline, une maladie dont on parle très peu dans les écoles de médecine, sans oublier le fait que les enfants sont de moins en moins scolarisés. Donc ils ne sont pas sensibilisés à l'école dès le jeune âge aux différentes maladies.
Alors Raphaël, quelle prise en charge existe donc à l'échelle de Madagascar?
Alors la lèpre se soigne, on l'a dit, et le traitement est gratuit. S'il est efficace, il est néanmoins lourd. C'est une polychimiothérapie, c'est-à-dire une combinaison d'antibiotiques et anti-inflammatoires entre 6 et 12 mois en fonction de la forme de lèpre. Possibacillaire ou multibacillaire. Et au centre de Maran, au bout de 3 mois, ils peuvent rentrer chez eux s'ils le souhaitent, à condition qu'il y ait au moins un garant de la famille qui puisse s'assurer que le traitement sera bien pris. Il faut savoir que si la contamination se fait sur plusieurs mois, le temps d'incubation varie de 2 à 15 ans. Et un porteur asymptomatique peut transmettre la maladie. Donc pour renforcer la prévention, l'OMS recommande d'administrer au cas contact du malade une dose de rifampicine, c'est un antibiotique. C'est ce qu'on appelle la chimioprophylaxie, un traitement préventif qui nécessite néanmoins de reconsulter un médecin 4 ou 5 ans plus tard.
Alors l'un des problèmes à Raphaël, c'est que la chimioprophylaxie est efficace à une condition, il faut que tous les contacts du malade soient examinés et traités.
Exactement, et souvent le plus difficile, c'est de faire accepter la maladie au patient pour qu'il n'ait pas peur de la dévoiler à sa famille et qu'il consente à donner les contacts de son entourage dans le village. Illustration tout de suite, en consultation avec Dr Cauchois, les sœurs Solange et Sabine.
Alors, donc ma sœur, donc vous avez convoqué ce malade. Qui nous le présente? C'est vous ou c'est sœur Solange?
Il s'appelle Nar, il est 30 ans.
Il a vraiment, malheureusement, ce qu'on peut appeler le visage typique du malade de la lèpre. Il a un effondrement au niveau du visage, il a un effondrement de la voûte nasale. Il a les sourcils complètement dépigmentés. Au niveau des yeux, malheureusement, on voit qu'il a une petite atteinte de la cornée, c'est-à-dire il a déjà des séquelles au niveau du visage. Donc il a même des résorptions, c'est-à-dire que vous voyez ici pratiquement il a une phalange qui a presque disparu, il a juste le bout des ongles qu'on voit, c'est-à-dire c'est le bacille qui a entraîné des nécroses cartilagineuses et articulaires. Malheureusement, ça veut dire que ce malade il vient très tard, ça fait probablement plus de 10 ans qu'il est atteint de la lèpre. Les infirmières ici l'ont classé comme un malade qui avait une atteinte neurologique évolutive, donc c'est peut-être ça. Donc ma sœur, une explication, on voit qu'il a été traité pour une névrite.
C'était au bout d'un mois déjà de traitement PCT qu'il a déclaré qu'il a des douleurs qui l'empêchent de dormir. C'est là que nous a entraîné à faire l'examen de plus près et décider de faire un traitement de névrite par corticoïde.
Sous corticoïde, il s'est amélioré, les douleurs ont disparu, ont régressé.
Tout à fait disparu, mais régressé.
Voilà, donc on a une réaction immunitaire qui se réveille. Ok, on est d'accord avec le diagnostic de réaction qui a été fait par les sœurs et on est d'accord avec l'approche thérapeutique qu'elles ont eue. Ça, c'est un motif de satisfaction pour nous parce que c'est pas simple. C'est ça aussi tout le paradoxe de la lèpre, c'est qu'on soigne le malade et en même temps, on lui crée un problème. Et ça, c'est un motif d'abandon. Et là, on a la grande chance d'être dans un centre comme ça où le malade est hospitalisé. Il va le lendemain dire à la sœur, cette nuit, ma sœur, j'ai pas dormi. Mais s'il est chez lui, qu'est-ce qu'il fait? Il jette les comprimés qui lui font mal. Est-ce qu'il est déjà allé consulter pour son problème? Quand il a vu que son nez s'écrasait, est-ce qu'il est déjà allé consulter des gens?
Oui, on m'a emmené chez le médecin. Il a dit que j'avais des saignements de nez. Elle m'a demandé de fumer des cigarettes d'herbe. J'ai fumé, ça s'est arrêté.
Là, on est sur le problème, ce qu'on appelle l'errance thérapeutique. Quand on dit docteur, lui, le tradipraticien, c'est un docteur. Il y a deux types de tradipraticiens. Il y a les herbothérapeutes et il y a les magiciens. Il faut pas laisser de côté les tradipraticiens. C'est 50% du recours aux soins en milieu rural. Donc nous, on a encore beaucoup de marge d'amélioration. Il faut qu'on travaille mieux avec les communautaires, mieux avec les tradipraticiens. Il faut qu'ils nous réfèrent, ces malades. Mais il faut que nous, on ait une relation de confiance avec eux, ce que je n'ai pas encore trouvé à Madagascar comme j'ai trouvé dans d'autres pays. Donc si on ne travaille pas avec eux, on passe à côté des cas. Il vit avec qui, ce monsieur? Il ne faut pas le laisser partir. Il vit avec qui?
Avec la famille. Mais son frère a dit qu'il va revenir avec quelques membres de la famille.
Naria, attendez, on n'a pas encore fini. On va prendre les noms des membres de votre famille pour les faire venir au centre. On doit vérifier s'ils sont malades aussi ou leur donner un traitement préventif. Comme vous êtes déjà malade depuis longtemps, vous avez pu les contaminer. D'accord? Vous pouvez donner les noms de votre famille à Sœur Solange.
Est-ce que vous pouvez reposer la question? Dans sa famille, est-ce qu'il y a déjà eu des cas comme ça?
Non, je suis le seul.
Vous vivez avec combien de personnes de votre famille?
justice.
Pourquoi on insiste pour voir la famille ? Ici, on est sur des zones où il fait froid. La nuit, on ferme les fenêtres, on vit enfermé. Là, le renouvellement d'une exposition au bacille quotidien pendant des semaines et des semaines et des semaines fait qu'il y a un risque de contagion. Ça, c'est important parce que ça permet à des jeunes soignants de leur dire « N'ayez pas peur de la lèpre, c'est pas parce que vous voyez un malade pendant 2 heures dans une salle de consultation. » Pour le soignant, le risque, il est nul. Ça, c'est important parce que c'est un des facteurs
de stigmatisation
et de non-examen des malades. Est-ce qu'il avait déjà vu des gens qui ont une maladie comme la sienne ?
Dans mon ancien village, il y avait 2 personnes malades comme moi, mais ce ne sont pas des membres de ma famille.
Voilà. Maintenant, moi, je vais vous proposer autre chose. On va organiser un dépistage dans le village. Alors, on va pas cibler la lèpre, parce que sinon on risque d'avoir une stigmatisation. On les consulte, s'ils ont des dermatoses banales, on les soigne. Par exemple, il y a un malade qui a la lèpre, on va lui donner son traitement, mais le malade qui a une simple mycose, il aura aussi son traitement. Donc il faut qu'on fasse coup double, il faut qu'on réunisse les communautés, qu'on réunisse les tradis praticiens, qu'on aille avec des affiches, qu'on sensibilise les gens.
Sœur Solange, c'est vous qui effectuez ce dépistage actif, c'est-à-dire ce porte-à-porte, vous allez dans les villages chercher les cas de lèpre?
Oui, c'est moi qui le fais. Quand je vois des malades de la lèpre, je leur parle d'abord de l'hygiène corporelle et ensuite je leur explique qu'il faut venir se faire soigner au centre. Sinon, la maladie va se propager. La plupart des malades ici, ce sont des cas qu'on a dépistés lors de nos tournées dans les villages.
Et une fois que vous avez dépisté un cas lors des dépistages actifs, est-ce que vous dites au malade clairement qu'il est atteint de lèpre ?
Oui, parce que les consultations sont privées, donc on peut leur dire directement. Ensuite, je les rassure et je leur dis « Vous êtes atteint de la lèpre, mais il est possible de se soigner et on est là pour prendre soin de vous. » Je les encourage.
Sœur Sabine, comment elle s'organise la vie ici, autour des malades ?
Alors les malades, le matin, donc, c'est la distribution des médicaments, un petit temps d'écoute pour ceux qui ont besoin. Ceux qui peuvent, un peu valides, s'occupent de la propriété du centre, du dortoir, de la cour, des toilettes et tout ça. Ceux qui peuvent travailler, donc la terre, pour aller au champ, ramasser les pots de chauffage. On accueille les malades qui arrivent de partout, à jusqu'à 200 kilomètres, avec des mauvaises routes, difficiles d'accès. Et ils n'ont pas cette opportunité-là d'avoir les soins que nous prodiguons ici. Il y a toujours des gens qui arrivent, mais il y a aussi des gens qui soignent leurs complications de la lèpre, qui ont besoin de plus de 12 mois à passer dans le centre. Ceux qui ont des plaies chroniques, par exemple. Les gens, même dans certains centres, même je dirais dans les hôpitaux, faire un pansement... C'est coûteux, hein? Et puis c'est pas dans tous les centres aussi qu'on prend les pansements des lépreux. Pour les gens, c'est bien ça, répugnant, quoi. On va aussi faire quelques pas pour arriver. Là, à côté, on va entrer à la salle de pansement. Salam.
Bonjour.
Donc là, il y a 7-8 malades qui sont assis. Certains ont les pieds qui trempent dans une bassine et 2 aides-soignantes.
Voilà, on soigne la plaie parce qu'en fait, eux, les malades de la lèpre, ils ont des plantes de pieds fragiles. Le pied aussi, la peau du pied aussi durcit. Ils arrosent aussi la peau de la jambe qui va garder l'humidité et l'élasticité de la peau aussi. Et c'est très bienfaisant pour nos malades.
Est-ce qu'on peut se rapprocher peut-être pour aller voir une plaie de plus près ? Sœur Ernestine, vous êtes en train de couper la peau morte tout autour de la plaie de la patiente, qui a une grosse plaie, on va dire de 2 cm de diamètre, 5 mm de profondeur. À côté de vous, je vois un bac où il y a plusieurs pinces différentes, de l'antiseptique et un pot de vaseline devant vous pour bien hydrater le pied.
Oui, je nettoie la plaie avec un coton. J'enlève la peau morte avec une pince gouge pour que la chair à l'intérieur puisse se reconstruire. Ensuite, quand c'est bien propre, je mets un peu de vaseline et je recouvre avec une bande pour que la patiente ne souffre pas quand elle marche. On refait ses soins tous les 2 jours.
Et qu'est-ce que vous apprenez aux malades quant aux soins de leur plaie et de leur peau ?
On leur dit de faire bien attention à l'hygiène parce qu'une peau propre permet à la plaie de guérir rapidement. Premièrement, prendre son bain tous les jours. Bien se laver les pieds et huiler la peau. Il faut aussi enlever les impuretés de la plaie avant de refaire le pansement.
Bonjour madame.
Bonjour.
Comment vous vous êtes blessé le pied, est-ce que vous savez ?
Je ne sais pas vraiment. Un jour, j'ai juste remarqué que j'avais des plaies. Ça fait environ un an. Je n'ai personne à qui parler. Mon mari m'a quittée quand il a constaté cette maladie. Quand les symptômes sont apparus sur ma main, il m'a dit qu'il ne pouvait plus prendre soin de moi et que je devais rentrer dans mon village.
Est-ce qu'il s'occupe de vous encore ou pas du tout ?
Non, mais un de mes enfants de 17 ans s'occupe de moi.
Et comment ça se passe ici, madame, pour vous ?
Tout va bien ici.
Vous m'avez répondu avec un grand sourire.
Oui, je suis heureuse parce qu'on vit bien ici. On nous donne le traitement et puis j'ai l'esprit tranquille quand on s'occupe de moi. On nous a appris comment nous laver le corps, se brosser les dents, laver nos pieds et rester propre.
Là, vous avez sursauté parce qu'on a touché votre pansement. Donc ça veut dire que vous retrouvez de la sensibilité dans le pied parce qu'avant, vous ne sentiez pas.
Oui, depuis que j'ai commencé le traitement, je ressens la douleur sous mon pied. Ça fait environ 3 mois que la sensibilité est revenue.
Et chez eux, il faut qu'ils marchent beaucoup pour aller dans les champs, pour aller au marché, pour faire le travail quotidien. Et c'est un problème, un cercle vicieux, quoi. Quand ils ont un peu de mieux, ils repartent. Et 6 mois après, ils reviennent ici. On leur dit ne pas attendre que ça soigne, que...
Parce que c'est ça, les malades viennent vous voir une fois que la plaie est infectée, en fait.
Oui, ils ne viennent pas au début de leur mal perforant plantaire, parce que quitter le village, quitter la famille avec le transport qui coûte pour le riz d'une semaine, peut-être pour la famille. Et nous, on est, comme ils savent que nous, on est toujours là, on les reçoit. On n'a pas le cœur de les renvoyer, quoi. On devient de la famille, quoi. On est malade, on retourne chez maman, chez papa pour se faire soigner. C'est un peu la famille maintenant. On ne sait pas encore comment faire pour arrêter une bonne fois, quoi.
Et en plus, j'ai entendu qu'une fois que la plaie est soignée, il ne faut pas appuyer dessus, donc il ne faut pas marcher dessus, ce qui signifie ne pas travailler, avoir des béquilles, et ça, ce n'est pas possible.
Voilà. Pour eux, c'est difficile. D'ailleurs, ici, il y en a qui ont des béquilles, mais ils laissent dans le coin de la maison quand ils vont partir.
Sœur Sabine, après les soins des plaies infectées sur les pieds, est-ce que c'est important que les malades puissent avoir des semelles spécialisées ?
Exactement. Nous, ici, on a une cordonnerie. Si vous voulez, on peut y aller.
Oui, on y va.
Fali fali za ufatine la notiako Zami angavya zami kisaraka pamole tia papo Kea miako no vizi tia pe Purufu kwa mino ufazatia Kezera malari tiako ufasi itrangiko Miatara fofi tia vangatika tupato
Maïdan avec Amiako Amao. Vous écoutez Priorité Santé sur RFI et nous allons maintenant repartir pour Fianarantsoa à Madagascar. Dans ce pays, comme plus généralement sur le continent africain, le fardeau de la lèpre est multiple, sanitaire, social, culturel. On vous retrouve, Raphaël Constant, à la sortie de la salle de soins du centre de Maran. Donc on est toujours sur la grande île, on l'a entendu. Les malades ne viennent pas au premier signe des blessures.
Tout à fait, alors que ce genre de plaie nécessite entre 3 et 8 mois de soins. Mais en zone rurale, Caroline, les premiers obstacles restent toujours l'accès à l'eau et l'éloignement des centres de soins. Alors si les malades ne soignent pas leur plaie correctement et dans un environnement sain, elles s'infectent, se nécrosent et provoquent des atteintes osseuses. Et malheureusement, la conséquence, c'est l'amputation du membre pour éviter la cancérisation de la peau et la septicémie. Direction la cordonnerie pour rencontrer Roger, ancien malade de la lèpre. Bonjour Roger. On vient de rentrer dans votre atelier. Je vois deux grandes tables en bois avec plusieurs chaussures différentes, des chaussures spéciales, il y a des sandales en cuir, des brosses, des patrons, marteaux. À gauche, il y a une machine à coudre. Comment vous êtes arrivé ici, dans ce centre ?
Je viens de la campagne. J'ai perdu mes parents quand j'étais petit. À 10 ans, je suis tombé malade et on m'a amené ici chez les sœurs, car on avait des difficultés pour me soigner. Notre vie était vraiment pénible et je ne pouvais pas travailler avec les gens du village car j'avais des crevasses aux pieds. Les sœurs m'ont donné un traitement et j'ai été guéri au bout d'un an. Je suis retourné dans mon village et j'ai repris le travail pour survivre. Très vite, je me suis fait de nouvelles plaies aux pieds, alors je suis revenu ici pour les soigner. La maladie m'a quand même laissé des infirmités sur les mains et sur les pieds. Un jour, j'étais dans la cour avec un ami. Il réparait sa chaussure et il m'a montré comment réparer la mienne. Plus tard, Sœur Sabine m'a vu coudre ma chaussure et elle m'a demandé si j'aimais faire ça. Je lui ai dit oui et là, elle m'a répondu qu'elle allait me trouver un stage. Je ne savais rien faire au départ. J'ai été formé par un podologue de la Fondation Folro et voilà, je suis devenu cordonnier.
Et alors racontez-nous, qu'est-ce que vous faites ici ?
Mon métier, c'est de fabriquer des chaussures pour mes amis ici. Ce sont des chaussures sur mesure pour que les malades puissent marcher. J'utilise des matériaux spéciaux pour fabriquer des modèles uniques. Cette chaussure-là, par exemple, est déjà terminée et celle-ci est en cours de fabrication pour un malade qui a une amputation des orteils. C'est une sandale avec une semelle adaptée, thermoformée, que j'ai réparée.
Donc les malades, les patients viennent vous voir, vous mettez leurs pieds sur cette plaque en caoutchouc que vous me montrez pour prendre exactement la forme et les mesures de son pied. Donc je vois que cette semelle, c'est un assemblage de trois matériaux différents. Et au niveau de la voûte plantaire, il y a un trou. Pourquoi ?
J'ai fait un trou dans la semelle à l'endroit où le malade a une plaie. Et je l'ai remplacé par un matériel très souple et doux pour qu'il puisse marcher sans avoir mal et guérir plus vite. C'est une matière naturelle qu'on appelle EVA.
Donc je vois qu'il y a certaines sandales, certaines chaussures qui sont visiblement modifiées, c'est-à-dire qu'on voit tout de suite que ce sont des chaussures adaptées, qui laissent même peut-être voir des pieds ou des orteils amputés. Mais je vois aussi plus loin que vous avez des baskets. Donc ça veut dire que les semelles que vous fabriquez, on peut aussi les glisser dans des chaussures de sport et non des chaussures orthopédiques fabriquées sur mesure.
Oui. Vous voyez, on peut mettre la semelle dans une chaussure comme celle-là. Le pied amputé rentre bien dans la chaussure et il peut marcher normalement. Il peut jouer au basket. Il peut aller en ville. Son pied est bien en place. C'est important parce que les malades atteints de la lèpre sont comme tous les autres malades. Ils ont le droit d'être heureux comme tout le monde et d'aller là où tout le monde va sans avoir honte.
Et pourquoi c'est important pour vous, personnellement, Roger, de faire ce travail ?
C'est important pour moi parce que j'ai vécu avec cette maladie. Je ressens la douleur de mes amis et ça me rend heureux de prendre soin d'eux. C'est important pour moi, mon métier, pour qu'ils puissent retrouver la joie dans les épreuves qu'ils traversent.
Et aujourd'hui, Roger, on peut dire que vous êtes la preuve qu'on peut guérir de la lèpre et se réinsérer dans la société après la lèpre.
Oui. Les malades atteints de la lèpre peuvent vivre comme tout le monde quand ils sont guéris. On ne doit plus les écarter. Ils ne sont plus des fardeaux pour les autres, mais ils peuvent vivre leur propre vie. Moi, je vis avec ma famille, il n'y a plus de problème. Aujourd'hui, je suis marié et j'ai 4 enfants.
Merci beaucoup, Roger.
Je vous en prie.
Lutter contre la stigmatisation des personnes handicapées par la lèpre, c'est vraiment un enjeu de société parce que certaines complications, Raphaël Constant, nécessitent des interventions chirurgicales parfois lourdes.
Alors les cas d'amputation sont rares aujourd'hui. Au centre de Marane, par exemple, la dernière a eu lieu il y a 5 ans. Mais tout l'enjeu, c'est de redonner de la mobilité au patient, donc lui fabriquer une prothèse et pouvoir le suivre parce qu'au fur et à mesure que le patient vieillit, eh bien, sa musculature change, il perd du poids. Et donc les prothèses deviennent lourdes et ne sont plus du tout adaptées.
Et Raphaël, à Madagascar, qu'est-ce qui existe en termes de mobilité et de rééducation ?
Alors il y a une 50aine de malades équipés en prothèses recensés dans le pays, dont 6 ou 7 de ces prothèses sont à renouveler chaque année. Pour ça, le programme Lèpre et la Fondation travaillent avec un centre orthopédique à Antananarive, un centre de chirurgie à Antsirabe et une école de techniciens orthoprothésistes françaises qui vient régulièrement en tournée dans les centres pour faire les moules sur mesure. Mais il reste encore à former du personnel à la kinésithérapie de base pour une approche complète de la mobilité.
Et une fois les malades guéris, vient le temps de la réinsertion.
Un enjeu majeur, Caroline. Et quelques mois avant la fin de leur traitement, la question de leur avenir est justement abordée en consultation. La Fondation a une caisse dédiée aux bourses scolaires des enfants et à l'appui à la formation professionnelle des adultes. C'est vraiment au cas par cas pour développer une activité économique, par exemple agriculture, élevage, restauration ou hôtellerie.
Parce que l'objectif, la victoire, c'est vraiment que les malades puissent rentrer chez eux, Raphaël.
Oui, c'est ça. Et ce n'est malheureusement pas toujours possible. Au-dessus du dispensaire, il y a un petit village où vivent une 40aine de personnes, des anciens malades qui sont en cours de réinsertion sociale ou qui ne peuvent pas retourner dans leur village à cause de la stigmatisation persistante. Certains sont salariés du centre, chauffeurs, jardiniers, cordonniers, gardiens ou couturières. Et c'est un lieu où ils peuvent se reconstruire. Sœur Sabine, on avance dans le village. On voit plusieurs maisons construites en ciment ou en pierre rouge, rose, avec des toits en tôle et des volets marrons.
C'est Alpha qui est monitrice de la carte de RIC comme institutrice des tout petits. Elle était là aussi pour des soins. Il a rencontré son mari, ils se sont aimés, ils se sont mariés. Donc avec combien d'enfants ?
Six
enfants.
Je suis une ancienne malade de la lèpre et quand j'ai été totalement guérie, je suis restée pour aider les sœurs.
Et vous étiez déjà institutrice avant d'arriver ici ?
Non, j'étais agricultrice dans mon village, mais je n'ai pas pu y retourner car ma famille m'a écartée quand je suis tombée malade.
Et vous enseignez à combien d'enfants ici ?
14. Il y a les enfants de familles d'anciens malades et aussi des enfants malades en cours de traitement. On ne fait pas de distinction. Ils ont tous école au même endroit et de la même façon.
Et pourquoi c'est important que l'école continue pour ces enfants ?
C'est très important pour les enfants d'être éduqués, qu'ils soient malades ou non. Quand ils terminent leur traitement, ils peuvent rentrer chez eux et reprendre leur apprentissage dans leur village.
Et vous, madame, qu'est-ce que ça vous apporte d'être institutrice dans ce village ?
J'aime enseigner aux enfants. Ça me permet de leur assurer un avenir meilleur. Vous savez, je n'ai pas eu beaucoup d'éducation. J'ai juste eu mon CAP et j'ai arrêté l'école. Malgré cela, j'ai la chance de pouvoir enseigner maintenant. Ce métier que je fais ici est vraiment important pour moi et je suis heureuse de travailler avec les sœurs.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Merci. On va donc aller dans une maison. Il y a 2 jumelles qui ont 7 enfants. On va venir aller où ? Bonjour. Bonjour.
Comment vous vous appelez ?
Khadimbi.
Rafara.
Je suis tombée malade en premier, puis ma sœur a été contaminée. Ça a été compliqué de vivre avec cette maladie. On a eu vraiment beaucoup de douleurs avant d'être diagnostiqués et de trouver un centre avec un traitement. La maladie s'est développée parce que nous n'avons pas pris les médicaments appropriés. Même les enfants ont été atteints. Au village, on nous a écartés. Les membres de notre famille ne voulaient plus nous toucher. Et les enfants étaient chassés quand ils jouaient dans la cour, parce que les autres avaient peur d'être contaminés. Plus personne ne nous rendait visite. C'est un membre de famille éloigné qui nous a amenés au centre de soins de Marana.
Et donc quand vous êtes arrivés ici, vous étiez toutes les deux malades. Et combien de vos enfants étaient malades aussi ?
À notre arrivée, deux de nos enfants étaient infectés. Ils avaient des plaies partout sur le visage et sur le corps. Ma fille, Soav, était encore petite. C'était vraiment triste. Le plus grand avait déjà les mains résorbées et quand il a guéri de la lèpre, ses mains ne sont pas revenues à l'état normal.
Les deux mamans ne pouvaient même pas ni allumer le feu, ni laver, ni se tresser. Vraiment incapables de faire quoi que ce soit de leurs doigts. Donc, on a demandé au village s'il n'y avait pas une fille assez grande pour s'occuper et de la cuisine et de la lessive et du ménage. Donc, la petite de 13 ans est venue. Franchement, elle était malheureuse, elle vivait ça très mal. Mais on l'aidait à rester. Et 6 mois après, on lui a trouvé une tache de lèpre. Donc, elle avait un petit traitement de 6 mois. Et après, elle guérit complètement. C'est les gens qui vont chercher de l'eau. Pour eux, les femmes du village aussi étaient beaucoup. Et les aides-soignantes et nous-mêmes, on faisait. Chaque personne avait quelque chose à faire par rapport à leur état.
Donc, il y a eu un vrai soutien de la communauté,
oui,
pour les aider.
Le soutien de la communauté.
Et alors, comment vous avez réappris à vous servir de vos mains et de vos pieds ?
On a recommencé à marcher petit à petit et on s'est débarrassé de la canne au fur et à mesure. Le docteur ici nous a appris. Il nous a dit de bouger nos mains pour faire circuler le sang et de faire des exercices comme la couture, par exemple. Le soir, on met aussi de l'huile de coco sur notre peau. On est vraiment heureuse parce que notre vie redevient normale petit à petit et notre santé s'améliore doucement.
À cet état-là, des exercices de rééducation, c'est pas possible, quoi. Parce qu'elles ont déjà un handicap très, très accusé. Et les mains, c'est des griffes fixées, il y a une paralysie. Là, la paume de la main est déjà toute plate.
Et comment vous faites pour coudre ? Alors, vous coincez l'aiguille entre vos doigts qui sont recroquevillés, c'est ça ?
On prend notre temps, on ne peut pas travailler longtemps. On se sert de ce qui reste de nos mains et on met l'aiguille ici pour s'entraîner.
Vous êtes en train de me montrer que vous placez l'aiguille entre votre pouce et votre index et vous attrapez le fil entre le cinquième doigt et la paume de la main. Ça vous rend fier de réussir à coudre aujourd'hui ?
Cela me rend vraiment heureuse de voir que je suis capable de recoudre, même si je ne peux le faire que très peu. Ça veut dire que je suis guérie.
Et aujourd'hui, vous en êtes où ?
On a quelques petites activités. On travaille dans les champs, on balaye la cour et on fait le ménage. On élève aussi des poules et des lapins. Certains voisins nous aident et on leur donne un salaire.
Alors, est-ce que vous pouvez dire que vous avez retrouvé une place dans la communauté ?
Depuis notre guérison, on a trouvé une communauté. On sent qu'on est accepté, qu'on s'entraide et qu'on prend soin de nous ici à Marana.
Alors, l'éradication, c'est notre souhait, c'est notre vœu. C'est pour bientôt. La réponse, clairement, c'est non. Malheureusement, dans des pays comme Madagascar, on a un peu un rôle de pompier. On subit l'extrême pauvreté qui fait le lit de la lèpre, soyons clairs. Il faut de la vaccination. On soutient des essais vaccinaux, on est encore loin. Maintenant, notre vœu aussi, c'est avoir des traitements plus courts. Aujourd'hui, les traitements de la lèpre, c'est 6 à 12 mois. Donc, il y a de la recherche qui a été menée notamment par la Fondation Raoul Folro à Bamako, au Mali, où on a espoir, d'ici quelques années, d'avoir un traitement antibiotique qui puisse être efficace en 3-4 mois. Une autre source de préoccupation, c'est toutes les complications de la lèpre. Et donc là, aujourd'hui, c'est travailler sur des thérapeutiques plus efficaces pour prévenir le handicap de la lèpre. À Madagascar, on va débuter dans quelques mois un essai multicentrique pour voir si l'effet, par exemple, sur les névrites, sur les atteintes neurologiques, peut être endigué sans avoir à utiliser des médicaments dangereux comme les corticoïdes.
La lutte contre la lèpre à Madagascar ne doit pas uniquement réserver à quelques ONG, mais d'avoir l'acceptation de toutes les instances du pays, je parle de la population, mais aussi bien des autorités. Il est également essentiel de lutter contre l'exclusion des malades de la lèpre, car ça constitue un facteur de blocage à Madagascar.
Le malade de la lèpre, nous on l'a soigné, nous on l'a guéri. Par contre, son handicap, il va le garder toute sa vie, ça va être son facteur d'exclusion. Donc il y a un travail à faire sur une approche inclusive du handicap. Aujourd'hui, il faut avoir une approche moins verticale des systèmes de santé et dire, ben voilà, quand on fait des kilomètres de brousse pour aller vacciner les enfants dans des villages reculés, emmenons des communautaires, emmenons des gens qui puissent parler de la lèpre, qui puissent dépister la lèpre. Faisons en sorte que la lèpre, ça soit pas seulement l'apanage d'un petit programme, d'une petite sœur dans son village.
Et on entend ces pistes d'espoir importées par la communauté médicale et cet appel aux autorités pour améliorer la situation des malades et anciens malades atteints de lèpre pour une stratégie zéro lèpre conforme à celle de l'Organisation mondiale de la santé. Et la route est encore longue. C'était Maudia, interprété par Ngita, la lèpre, maladie encore endémique à Madagascar. Un reportage long format signé Raphaël Constant en partenariat avec la Fondation Raoul Follereau. Demain dans Priorité Santé, Sommeil et Santé, des spécialistes seront à votre écoute pour vous répondre à partir de 9h10 temps universel.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sounou Banque avec vous à chaque étape.